7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Richard de Sèze.
Il est 8h45 et non, il est 8h46. Merci beaucoup d'être avec nous. Dans quelques minutes, ce sera l'analyse de Rémy Tell, mais tout de suite, la chronique d'Alexandre de Galzin.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Et tout de suite, bulletin d'actualité avec Alexandre de Galzin. Rebonjour à tous, chers auditeurs. Ce week-end, la députée LFI Mathilde Panot, chef de son groupe à l'Assemblée nationale, était présente à Saint-Denis, ce qui a fait croire à de très nombreux médias et commentateurs qu'une foule de 26 000 personnes était présente à Saint-Denis. Il faut dire que l'illusion était trompeuse, alors gare à la désinformation en période électorale. Attendez que je retrouve mes fiches, mais en fait c'est moi qui me suis trompé, il y avait effectivement 26 000 personnes en plus de Mathilde Panot à Saint-Denis, c'est vous dire à quel point les rues étaient remplies. Alors pourquoi ces 26 000 personnes étaient-elles présentes à Saint-Denis? Eh bien à première vue, de très nombreux journalistes ont hésité. S'agissait-il d'une file d'attente à la CAF, de l'installation d'un nouveau centre de rétention administrative, du match retour entre le Maroc et le Sénégal, ou de l'ouverture du 19e Master Poulet de la commune? Mais la présence de drapeaux palestiniens et de Mathilde de Panot étaient deux indices qui auraient dû aiguiller la presse plus tôt. Il s'agissait en fait du premier meeting de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Fait surprenant, les médias sur place ont publié plus de papiers qu'il n'y en avait dans l'assistance. Autre particularité, alors qu'on dit qu'en France on n'a pas de pétrole mais on a les idées, on peut observer que visiblement, à la France insoumise, ils ont les deux. Devant une marée noire de monde, le grand timonier s'est donc fait tenir la barre par la députée Sophia Chikirou. Il a promis le SMIC à 1 700 € pour tout le monde, sauf pour les élus de la France insoumise qui, à l'image du maire de Roubaix, David Guiraud, bénéficieront d'une large augmentation de 475 € par mois. Les membres du Comintern seront également exemptés de tickets de rationnement et auront le droit de dénoncer 10 voisins de leur choix. Autre personnalité présente, le prix Naël de littérature Annie Ernaux, dont la résurrection avait été réalisée 2 jours auparavant par la sorcière Alma Dufour, l'autrice de nombreux ouvrages, tous plus oubliables les uns que les autres, a en effet été sortie du sarcophage où elle avait été placée avec Jack Lang et Bernard Cazeneuve il y a 6 mois par Yaël Braun-Pivet. De fait, la présidente de l'Assemblée nationale les avait choisis comme, je cite, « premier bénéficiaire de sa campagne nationale d'euthanasie ». Elle avait ainsi ajouté « de toute façon, personne ne verra la différence ». Or, différence, on avait vu quand, suite à la décision d'Emmanuel Macron de restituer toutes les antiquités égyptiennes à leur pays d'origine, les archéologues du Caire avaient découvert Édouard Balladur à la place de la momie Toutmo 6-7. On peut aussi observer la présence du maire de la commune, Bali Bagayoko, ou, pour citer Éric Zemmour, Bagui Nabala Bonoko. L'édile, de son côté, a défendu une proposition originale, renommée la Basilique de Saint-Denis en Cannabis de Saint-Denis. De même, ses déclarations ont surpris l'auditoire quand il a affirmé que, je cite, « les seuls poulets que nous accepterons seront chez Tasty Krusty ». Partant sur un discours alambiqué sur l'interdiction future des cochons d'Inde, qui serait selon lui une manière pour l'extrême droite de tromper les musulmans sur le halal. Il a cependant déclenché les premiers applaudissements depuis le début de la journée, en concluant son discours par ces mots « Alakini fahimt laish makundu tusakriku kan lazem an atlakem bel arabia » ce qui signifie « ah, mais j'ai compris pourquoi vous n'applaudissiez pas, il fallait que je parle arabe. » Enfin, l'événement a été suivi d'un grand bal mosquée, au cours duquel le député LFI Antoine Léaumont se serait pris un 11e râteau par la directrice de l'Institut La Boétie, Clémence Guettet. Pour le consoler, il aurait été admis sur le fauteuil situé en face du lit de la chambre à coucher de Jean-Luc Mélenchon. Le reste appartient à l'histoire. Toutefois, l'opération n'a pas été dénuée de succès, puisque la présence de ces 26 000 militants à Saint-Denis a permis la saisie de 11 tonnes de marijuana, 1211 tenders avariés, la multiplication du taux d'OQTF appliqué par 7, l'arrestation d'un délinquant particulièrement recherché par les forces de l'ordre, répondant au nom de Raphaël A, ainsi que la rescolarisation d'un enfant perdu. Répondant au nom de Louis Grouillard, il a été démasqué puisqu'alors que les policiers arrêtaient Youssef, son dealer de méthamphétamine, Louis Grouillard aurait braillé « Bruno Retailleau, fasciste ». Ce à quoi les policiers lui ont répondu qu'il n'était plus ministre de l'Intérieur depuis un an. Quand même, Louis Grouillard aurait ensuite crié une demi-douzaine de noms correspondant aux auteurs de Ratus à la ferme et de personnages du magazine Astrapi, suivi du qualificatif fasciste. Devant cette absence manifeste de scolarisation, il a été rapporté à sa maman, qui n'en a pas voulu non plus. Mais la soirée s'est terminée de façon particulièrement dramatique pour Louis Grouillard quand, en traînant non loin de l'Assemblée nationale, il se serait fait manger par Mathilde Panot. Son évacuation d'urgence aux toilettes du siège de la France insoumise vers 2h du matin aurait donné lieu à la production du programme économique du dit parti et la redécouverte de l'honneur d'Éric Coquerel qui, lui aussi, avait été mangé par Mathilde Panot, plus de peur que de mal. Donc.
Non mais qu'est-ce que vous racontez, par pitié? Mais c'est pas du tout l'heure du bulletin d'actualité, en plus.
Vous parlez de bulletin, je vous réponds. Baccalauréat, hier, nos charmantes têtes blondes adeptes des 6-7 ont visiblement plus de difficultés quand il s'agit du français. En effet, l'épreuve suprême a eu lieu hier soir et beaucoup d'entre eux ont dénoncé un texte incompréhensible pour l'épreuve du commentaire. Je vous en livre aujourd'hui un extrait.
Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous allez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France!
Voilà, alors on ne comprend effectivement rien. Un beau message envoyé à tous ceux qui dénonceraient le bilan de Gabriel Attal à la tête de l'éducation nationale. Difficile d'accuser l'ancien ministre d'avoir baissé le niveau scolaire car même la version 6.1 de ChatGPT s'est révélée incapable de produire une quelconque analyse cohérente. Autre fait marquant, la présence de l'ancien présentateur star de la chaîne CNews, Jean-Marc Morandini, à cette même épreuve du baccalauréat. Pour sa 42e participation, ce dernier aurait, selon certaines sources, fait exprès de rater totalement son épreuve dans le but, je cite, d'être présent au rattrapage. Jean-Marc Morandini aurait également postulé au brevet des collèges, mais aurait paradoxalement brillamment réussi le concours de professeur de classe de 3e, un examen qu'il aurait énormément révisé à l'aide de son ami Daniel Cohn-Bendit, selon les informations disponibles.
Bon, bah, tant qu'on y est, vous pourriez peut-être évoquer l'affaire Liana.
Tout à fait, Richard. Dans toute la France, c'est la stupéfaction qui règne depuis qu'on a appris le viol et le meurtre de la petite fille. Nous en avons beaucoup parlé à notre antenne, mais il me semble que nous avons occulté l'aspect le plus choquant de cette affaire. En effet, si d'aucuns accusent, et souvent à raison, la magistrature ou la gestion déplorable de la justice française ces 30 dernières années, personne n'évoque l'éléphant dans la pièce, le suspect lui-même. En effet, comment expliquer que celui-ci se retrouve aujourd'hui à 36% d'intention de vote dans les sondages pour la présidentielle 2027, loin devant tous ses concurrents ? De même, lors d'un grand entretien sur la chaîne LCI l'autre jour, aucun journaliste présent sur le plateau de Darius Rochebain n'a jugé bon de le confronter à cette affaire sordide. En lisant la presse de ces derniers jours, on aperçoit certes des critiques, mais dont la pertinence est parfois difficile à comprendre. On l'accuse d'être un robot, d'être trop lisse, de ne pas avoir fait d'études, de n'avoir aucun fond ou d'être trop libéral, mais pas un mot sur la jeune Liana. Plus choquant encore, une affaire qu'on pourrait comparer à celle de Nordal Lelandais qui avait eu il y a quelques mois un enfant alors qu'il était en prison. Notre personnage aurait été aperçu ce week-end de Grand Prix de Monaco en compagnie de Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles. Mais alors qu'il a eu l'audace d'être quasi candidat à l'élection présidentielle, tout devrait se décider dans un procès qui se tiendra le 7 juillet prochain.
Mais arrêtez-vous, Alexandre, vous confondez Jérôme Bardella et Jordan Bardella.
Ah bah vous aussi.
Bah oui.
Attends, mais la... Ah la vache,
c'est horrible.
Enfin,
c'est,
ouais, bah oui, bah, alors je retire tout ce que j'ai dit, je passe à autre chose. Hein. Bon, on reprend. L'Observatoire des mairies RN, émanation de l'Observatoire de l'extrême droite, a révélé des faits choquants et glaçants hier au sujet du nouveau maire Rassemblement National de Carcassonne, Christophe Barthès. Bart, selon Sarkozy. Celui-ci aurait commis une série d'actes, je cite, qu'Adolf Hitler n'aurait pas renié, selon les mots de l'Institut. En voici la liste. Tout d'abord, un édile aurait fait le choix de supprimer la subvention à hauteur de 790 000 euros de l'association Un Sourire, Un Migrant, qui engageait des clowns inclusifs gratuits dans le but de faire sourire les Carcassonnais, qui se retrouvaient ensuite forcés d'accueillir un clandestin dans leur logis. Mais Un Sourire à Migrant n'est pas la seule association à avoir fait les frais d'une coupe de budget. Ainsi, la structure « Wesh, allez crever les Fransaoui, au nom d'Allah, on va vous égorger », qui se veut protectrice de la culture populaire et amie de toutes les solidarités antiracistes, a vu ses subventions disparaître. 155 000 euros évaporés qui devaient servir à l'édification d'un monument gratuit à la mémoire de Salah Abdeslam, martyr du racisme d'État, selon les mots de l'imam Iqwisen, parrain du projet. Enfin, toujours en citant l'Observatoire, vient ici le plus dangereux. Christophe Barthès aurait demandé à la police municipale de, je cite encore, « lutter le plus efficacement possible contre les viols, les tentatives d'homicide et autres crimes ». Ici, c'est le député LFI Thomas Porte qui s'est exprimé, attaquant l'appareil oppressif insupportable du Rassemblement National. Dans les colonnes du Courrier de Carcassonne, il a ajouté que, aujourd'hui, tout le monde sait que lutter contre l'insécurité, c'est aussi lutter contre l'immigration. Ce racisme est insoutenable. Pire encore, l'information aurait fait rire Christophe Barthès, qui l'aurait qualifié devant tout le conseil municipal de, je cite, « gros débile ». Une prise de parole applaudie par la majorité municipale. Enfin, dernière information de ce bulletin d'actualité. Notre journaliste Maëlys Clozel aurait été surprise ce dimanche au meeting de Jean-Luc Mélenchon, mais pas pour couvrir l'événement. Selon des informations exclusives obtenues par moi-même, on l'aurait retrouvé à la sortie de l'événement politique, à la tête d'un stand financé par Jean-Yves Le Gallou. Sous le nom « Un voile, un vol », elle aurait distribué pas moins de 220 coupons de réduction pour des allées simples Paris-Alger. Une générosité qui n'a manifestement pas touché le député Raphaël Arnaud, qui aurait demandé à ses nouveaux collaborateurs parlementaires de l'attendre à la sortie pour, je cite, « faire comme la dernière fois ». Procédure habituelle. Maëlys Clozel n'a d'ailleurs réchappé saine et sauve de l'événement que grâce à l'arrivée impromptue du directeur de la rédaction de Radio Courtoisie, Richard de Cèze, qui, affublé du costume de Super Richard, serait descendu du ciel en hurlant
« Ouah 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 shabba !»
Il aurait ensuite assommé les agresseurs à coups de « Les belles-mères sont-elles de droite ?» édition augmentée aux éditions de la Nouvelle Librairie pour seulement 18,90€. Bref, tout est bien, qui finit bien.
Voilà, merci Alexandre de Galzan.
Ligne droite, l'analyse.
Et pour cette analyse, nous retrouvons Rémi Tell dans quelques instants. J'étais persuadé que nous avions pris du retard et que nous serions un peu en retard nous-mêmes. Du coup, j'ai fait prévenir Rémi Tell qu'il risquait d'être légèrement en retard. Et en fait, non, pas du tout. On termine pile poil à l'heure. Merci Alexandre. Bonjour Rémi Tell.
Bonjour Richard, bonjour à tous.
Alors,
merci beaucoup de m'accueillir.
Merci à vous d'être avec nous. En préparant cette analyse, vous m'aviez dit, en fait, il faut revenir à la source principale de tous les maux, qui est en fait la manière dont la vie est sacralisée ou au contraire désacralisée.
Et vous lisez dans mes pensées, Richard, vous allez le voir, parce qu'effectivement, cette semaine, je me suis posé la question de savoir pourquoi une actualité sordide chassait indéfiniment une autre actualité sordide. Pourquoi nous passions de l'affaire Liana à la proposition de loi sur l'euthanasie, des faits divers barbares, au concert de Barbara Butch dans les églises parisiennes, des orgies mondiaux diffusées de la star du porno Bonnie Blue, au règlement de compte à la calache sur fond de trafic de drogue, des émeutes de supporters du PSG, pas loin de Radio Courtoisie, aux agressions et viols sur mineurs dans le périscolaire parisien, crise de l'autorité et de la morale, me dira-t-on. Oui, mais qu'est-ce que la crise de la moralité si ce n'est avant tout une crise de la sacralité ? Dieu est mort, prophétisait Nietzsche, oubliant de préciser quand même qu'avec lui, la modernité avait logiquement jeté par-dessus bord les égards dus à l'homme, avec un grand H, créé à l'image de Dieu pour participer de sa vie divine. Au siècle dernier, Camus démontrait que la philosophie de Sade, était l'enfant inévitable de la révolution et du régicide, et à travers eux, du meurtre symbolique de notre Père Céleste. La fiction du contrat social n'ira rien changer, Richard, ou si peut-être elle aura ménagé la parenthèse durant laquelle notre force de travail était encore nécessaire au fonctionnement collectif. Mais ça, c'était avant que le progrès technologique nous rende obsolètes et ne permettent plus de tenir l'idée du bien en cette époque sécularisée. Si nous dénions à un fœtus, à une personne âgée ou lourdement handicapée, le caractère sacré de sa condition, il est vain de proclamer l'inviolabilité du corps pour chasser et punir les prédateurs. Sans absolu, il n'y a que du relatif, et il en va donc des règles multiples en fonction des sociétés organisant notre existence commune. Quand une société entière se place sous les auspices de la profanation, elle se condamne au pire débordement. La transgression n'est pas un symptôme, mais la matrice de notre temps. J'entends déjà certains me répondre que les profanateurs ne correspondent pas toujours et même pas souvent au profil du chrétien apostat. C'est vrai, mais c'est peut-être une preuve supplémentaire de cette mécanique qui aspire d'autant plus violemment ceux qui, par ailleurs, évoluent dans le carcan d'une obéissance extérieure à une foi factice. L'avantage, c'est que si tous ces mots découlent d'une même source, Richard, il n'y a pas sans solution à rechercher. Retournons nous abreuver à la source et le reste viendra.
Alors, le reste viendra, malgré tout. On se dit qu'il va y avoir un léger et long chemin entre le reste qui vient et la situation actuelle. Vous avez dressé un tableau un peu apocalyptique de tout ce qui ne va pas. La raison de cette désacralisation de la vie, fondamentalement, paraît prendre sa source dans cette philosophie des Lumières où il s'agit de s'émanciper. Et donc, s'émanciper, c'est considérer que toutes les barrières morales qui ont été posées sont forcément néfastes, et y compris, évidemment, tout ce qui protège la vie.
Oui, puisque c'est la réflexion de Camus dans L'homme révolté, et chez Camus, on ne s'attend pas à trouver forcément ce type d'analyse, mais il explique que la Révolution, c'est un mouvement, la Révolution française est un mouvement nihiliste, parce que c'est une démarche spirituelle. C'est abattre Dieu à travers son représentant sur Terre, à savoir le roi. Et que cette transgression spirituelle emporte avec elle toute la conception, en fait, de l'homme né du christianisme, qui est une conception d'un homme au reflet divin, d'une certaine manière. Et comme le christianisme a porté un regard nouveau sur l'homme depuis 2000 ans, un homme qui était quand même très souvent réduit à l'état d'esclave, avec des sociétés qui étaient très chrétiennes, qui étaient extrêmement violentes, en fait, on retrouve cet état d'avant le christianisme dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il conclut même en disant que la philosophie de Sade, qui était donc celle du pouvoir et de la transgression, était nécessairement contemporaine de la Révolution française.
Alors, cette désacralisation, elle va très loin au moment des Lumières, puisque Voltaire et Diderot justifient le viol, puisque on propose que les criminels condamnés à la peine de mort soient livrés aux chirurgiens pour la vivisection. Il y a une dichotomie absolue qui se met en place, et en fait on voit bien que la désacralisation de la vie conduit immanquablement, en fait, à atteindre la dignité de l'homme. C'est-à-dire, on commence par expliquer que la vie n'est pas sacrée, et ensuite on en tire des conclusions qui sont d'ailleurs défendues par les encyclopédistes, par ces grands philosophes des Lumières. Le professeur Martin en a rempli des volumes entiers que j'encourage tous les auditeurs à acquérir et à lire aux éditions Dominique Martin Morin. Ensuite, on justifie le fait que les riches soient différents des pauvres, essentiellement différents, que les uns ont droit à l'instruction et pas les autres. On justifie le travail des enfants, on justifie l'esclavage sexuel des femmes. Autrement dit, commencer à toucher à la vie, c'est en fait détruire tout le tissu social.
Oui, et certains diront, mais pourquoi vous mettez Dieu dans l'équation? Pourquoi on ne pourrait pas construire une morale laïque d'une certaine façon? Eh bien, la preuve que c'est impossible de tenir une morale laïque stable, c'est que dans les sociétés sécularisées ou païennes, par exemple, la morale varie d'un continent à l'autre. Et les sociologues ont toujours beaucoup de plaisir à rappeler que dans tel ou tel groupe humain, on fait telle ou telle chose pour éduquer les enfants qui nous paraissent, nous, absolument monstrueuses. Donc, s'il n'y a pas d'hétéronomie, c'est-à-dire d'une loi qui est donnée de l'extérieur, et pas une loi que l'homme se donne à lui-même, en réalité, cette loi, c'est du sable. Et c'est du sable mouvant qui, quand bien même on érige une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, quand bien même on produit un code pénal et un code civil, à la fin, sont quand même condamnés à s'effacer devant le moteur, en réalité, de l'histoire moderne, qui est celui de l'autonomie et du caractère en fait autoréférentiel de notre époque, c'est-à-dire la loi que nous nous donnons et qui est donc relative aux circonstances, à la façon dont le progrès technologique modifie les rapports humains et les rapports au travail. Et la conclusion, ben, c'est celle qu'on vit aujourd'hui en fait. Et évidemment, dans mon propos liminaire, il n'y avait pas de condamnation des personnes, mais simplement un constat sur la réification d'une certaine façon de l'homme, et l'homme qui devient une chose, et donc une chose qu'on peut consommer, qu'on peut prendre, jeter, et qu'on peut même casser quand bon nous semble.
Alors, cet homme jetable et consommable, vous nous dites, on peut en fait espérer un chemin de rédemption, alors aussi bien humain que spirituel, on peut renverser la vapeur, on peut en fait resacraliser la vie. Comment se dessinerait ce chemin? Quels seraient les débuts en fait de cette réintégration du caractère sacré de la vie dans la cité?
Alors, la foi ne se décrète pas, mais peut-être qu'elle peut se sécréter déjà en permettant que l'instruction rende l'homme un peu plus libre et un peu moins esclave, en s'attachant au beau plutôt qu'à la laideur. Tout ça, ce sont des conditions qui, y compris lorsqu'elles sont favorisées par l'homme, bah, nous rendent peut-être davantage disponibles justement à cette rencontre et à cette rencontre spirituelle-là. Le pape, hier ou avant-hier, a inauguré la Tour du Christ à Barcelone de la Sagrada Familia. C'était le grand chantier du monde, qui est d'ailleurs toujours pas achevé. Et vous avez eu, chez des gens qui sont croyants comme incroyants d'ailleurs, une espèce de sentiment de sidération collective, mais au bon sens du terme, face à ce que l'Église était capable de produire de beauté. On a beaucoup commenté, et à juste titre d'ailleurs, ce que l'Église avait su produire de laideur au cours des décennies passées, mais on a vu là, dans cette visite apostolique du Saint-Père en Espagne, ce que l'Église pouvait produire de beauté. Bon, et pourtant, c'est l'œuvre de simples hommes. C'est une mise en scène, ce sont des lumières, c'est du travail humain, mais qui est inspiré en ce que il est tellement, ça a été tellement gigantesque, tellement titanesque, que peut-être l'incroyant se dit, mais il faut quand même une sacrée dose d'amour pour le ciel en soi pour voir aboutir un chantier comme celui de la Sagrada Familia. Donc évidemment, il n'y a pas à notre mesure humaine, il n'y a pas de solution toute faite, mais on a la possibilité quand même de sécréter des choses et d'être un peu les témoins de cet amour pour en inspirer d'autres en fait.
Dans votre foi chrétienne que vous manifestez, et merci pour votre témoignage, il y a quand même évidemment tous ceux qui ne sont pas croyants et qui ont des préventions plus ou moins légitimes et plus ou moins justifiées contre l'Église. On peut aussi considérer que le caractère sacré de cette vie, c'est malgré tout, à travers toutes les sociétés, y compris celles qui ont les lois les plus étranges, voilà, le cannibalisme rituel ou la guerre intratribale, l'idée que en fait on ne peut pas tuer n'importe comment, qu'à chaque fois il s'agit d'une décision qui est prise par le groupe au nom du groupe et non pas comme l'expression de la liberté individuelle. Dire même les coutumes qui nous paraissent les plus barbares, y compris les Romains qui ont bâti cette civilisation et qui n'étaient pas les derniers en matière de lois aberrantes, ont le sentiment que ce n'est pas à l'homme de se faire justice seul, ce n'est pas à l'homme de décider seul que la vie de son frère n'a pas de prix.
Alors, deux petits points pour vous répondre. Juste sur la question précédente, parce que j'y pensais. Si, le meilleur moyen peut-être, c'est là aussi où le diable porte pierre, c'est de constater les fruits pourris, justement, de la logique inverse. Et d'une certaine façon, le temps qu'on traverse a ce mérite-là de montrer ce à quoi conduit, justement, ce rejet du ciel. Parenthèse fermée. Sur ce que vous dites, il y a la question du rituel. Et il est assez frappant, y compris dans des aspects tout à fait communs de nos existences, d'observer comme le rituel a été complètement abattu, finalement, au cours des dernières décennies. Il y a quelques années encore, il était assez peu courant de trouver des gens mangeant seuls au restaurant, par exemple, ce qui arrive énormément aux États-Unis. De la même façon, il y a quelques années encore, quand on voulait séduire une fille pour la mettre dans son lit, pour commencer par lui proposer d'aller boire un verre. Et aujourd'hui, vous avez des applications de rencontres qui font que on se passe même plus de ce genre de ritualisation finalement de la relation, et vous pouvez même demander à ce qu'on ne se parle pas, etc. Et ce rituel, le rite marque le religieux. Donc c'était encore un legs d'une certaine façon de ce monde religieux, et ce rituel retient surtout. Il permet d'organiser. Alors évidemment, on va tous manger au restaurant tout seul maintenant, c'est pas le sujet. Mais ce rituel, c'est ce que vous dites, y compris lorsqu'il s'agit de sacrifices, ou y compris lorsqu'il s'agit de faire des choses qu'on juge mauvaises. En fait, il organise, et il retient, il continue finalement de retenir l'homme. Et donc, dans ce mouvement, en fait, de sécularisation, il y a eu aussi quelque chose de secondaire, qui a été la perte de tous les de tous les rituels. Et vous savez, ça peut paraître un peu comme ça décousu, mais je pense qu'il y a vraiment une logique là-dedans. C'est l'université de Floride, West Coast, de côte de l'Ouest, qui publie chaque année un rapport sur les tueurs en série aux États-Unis. Et avec des enquêtes statistiques qui sont extrêmement fouillées, qui permettent de déterminer en fonction de tout un tas de caractéristiques, la typologie de crime, etc. Les États-Unis, c'est 4% de la population mondiale, de mémoire, ou 7%, je sais plus. Et c'est, non, 4%. Et c'est 67,5% des tueurs en série. Et je pense, mais c'est une hypothèse personnelle, que la question de la disparition du rituel a en fait beaucoup de choses à voir avec cette épidémie du meurtre en série qui a sévi aux États-Unis, partir d'ailleurs de l'année 1969. Le point de bifurcation dans l'épidémie des meurtres en série, c'est 1969, donc un an après 1968. Parce que précisément, tous ces instincts humains qu'on porte tous en nous, et qui étaient retenus soit par une loi extérieure, soit même quand cette loi avait symboliquement disparu, par une sorte de rituel culturel, quand la loi disparaît et des rituels culturels, eh bien, il n'y a plus rien qui retient ces pulsions qu'on porte en nous, et c'est le déchaînement pulsionnel, et donc c'est le phénomène, par exemple, du meurtre en série. Ce qui signifie donc, je conclue, mais pour repartir de votre point de départ, que même dans des sociétés non chrétiennes mais religieuses, même dans des sociétés non chrétiennes et religieuses, le caractère sacré d'une loi ou tout simplement de l'existence humaine permet de retenir un certain nombre de débordements que nos sociétés sécularisées, nos sociétés chrétiennes sécularisées, ne peuvent plus retenir aujourd'hui.
Ils ne veulent plus retenir. Dans la redécouverte de ce caractère sacré de la vie, on sent qu'il y a aussi comme première étape le fait de redécouvrir la valeur de l'autre, c'est-à-dire de se dire non, en fait, je n'abandonne pas mon fils parce qu'il est malade, je n'abandonne pas mes parents parce qu'ils sont gâteux, en fait, je n'abandonne pas mes amis parce qu'ils sont dans la peine, en fait, je ne suis pas là uniquement pour me réaliser, ou plutôt, je ne peux pas me réaliser seul et de manière autonome, j'ai besoin des autres pour exister.
Oui, et le problème de considérer que l'homme finalement est un produit de la génétique ou un produit de la contingence et non pas une création désirée par Dieu pour être à son image et participer de sa vie divine, c'est que précisément ça transforme l'homme de la fin en moyen. Donc ça date pas d'aujourd'hui d'une certaine façon. En revanche, on est là peut-être au stade terminal. Il y a quelque chose qui a été assez frappant dans l'encyclique du pape Léon XIV. Il dit une règle de base dans les conflits, ça devrait être l'impossibilité de frapper sur des cibles avant d'avoir vu leur visage. Et ça nous renvoie à la question de l'infini aussi et des travaux qui avaient été ceux de Lévinas sur le totalité infinie et le visage humain. Ça m'inspire autre chose. Hier, le Figaro TV accueillait deux psychologues sur son plateau et l'une d'entre elles disait, quand il y a un jeune qui vient me voir et qui me parle de sa petite amie, je lui pose toujours spontanément la question de savoir s'il la connaît. Et dans 90% des cas, en fait, c'est une relation numérique. C'est-à-dire que dans 90% des cas, ce jeune homme qui me parle de sa petite amie ne l'a jamais vue. Et donc, la désacralisation de l'homme, c'est la crise de la relation. Et aussi, bah, toutes ces réactions en chaîne que que vous que, qu'on évoque, y compris dans leurs aspects les moins glorieux. Et forcément, cette omniprésence technologique, mais qui n'est que le reflet en fait d'une conception qu'on a où l'homme est subordonné à la question de la puissance puisqu'il n'a pas de valeur en tant que tel, complique encore justement cette dimension relationnelle. Et parfois, on a l'impression, j'en termine par là, mais on a l'impression que la morale religieuse ou que la foi telle qu'elle s'est développée depuis 2000 ans était une forme d'humiliation de l'homme soumis à la contrainte, soumis. Alors que c'est en fait exactement le contraire. C'est-à-dire que la loi a pavé le chemin en vue de l'amour de Dieu et du prochain, mais pour la sanctification de l'homme et pour la divinisation précisément de l'homme. Dieu s'est fait homme pour que les hommes deviennent Dieu, en fait. Et en prétendant augmenter l'homme, en prétendant toutes ces espèces de folies qu'on voit aujourd'hui, en réalité, on est à rebours de ce qu'on prétend faire, à savoir de transformer l'homme en Dieu.
Je suis évidemment passionné par la discussion. Le souci, c'est cette idée de trouver en fait le premier pas. Vous parlez de l'éducation au beau, donc ça signifie remettre en cause l'éducation nationale et remettre en cause aussi le ministère de la culture qui a tendance à privilégier une espèce de beau indifférencié où c'est l'émotion qui prime ou le concept et où même l'idée même d'une esthétique est en fait considérée comme étant réactionnaire et fasciste. Donc on se dit que la meilleure manière en fait de resacraliser ce rapport à la vie, c'est peut-être moins de compter sur l'État qu'une fois de plus de faire en sorte que dans le discours et aussi dans les actes, on aille vers les autres. Ce que vous dites de ces jeunes gens qui ne connaissent pas leur petite amie est à la fois la révélation de l'échec de cette révolution sexuelle de 1968. On nous a expliqué que voilà, il fallait jouir sans entrave pour arriver à peine 60 ans plus tard au constat misérable, au contraire de l'enfermement de chacun dans son monde numérique où la peur d'aller vers l'autre, y compris la peur judiciaire. Si je vais vers une jeune fille, aussi bien demain je me fais accuser de harcèlement. Si je vais vers un jeune homme, aussi bien demain il va me demander de dévoiler des photos intimes qu'il partagera avec ses camarades. Je suis en tant que jeune dans un univers hostile en permanence où entre les appétits des uns et le regard de la société, tout est piégé et je finis par ne plus rien faire, ne pas désirer m'engager.
Et c'est là où peut-être que le diable porte pierre aussi, c'est-à-dire que quand on goûte le fruit pourri finalement de cette logique-là, le fruit amer, peut-être qu'on a envie d'aller trouver autre chose. Et il est assez marquant que dans la vague de conversion que l'Église catholique française observe, la plupart des jeunes, en tout cas c'est ce que disent les prêtres, arrivent par la question du péché. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas dans cette espèce de christianisme, vous savez, DTM, c'est-à-dire des déismes thérapeutiques et je ne connais plus le M, mais on pourrait dire narcissique, dans une forme de feel good ou avec une volonté d'être de bien-être ou de trouver une satisfaction personnelle. Non, c'est souvent la question du péché et du mal qui les amène aujourd'hui vers l'Église. Et ça, les prêtres l'indiquent, c'est quelque chose de très singulier par rapport aux conversions spontanées d'adultes du siècle dernier ou même du début du XXIe siècle. Ce qui signifie que cet imbécile de diable, dans ses basses œuvres, contribue en fait lui aussi au réveil des cœurs. Parce que dans nos vies, on bute un moment sur ces impasses-là. Et donc ça, c'est peut-être le premier aspect de réponse à votre question. Et sur le deuxième aspect, eh bien, on peut être chacun à notre mesure des témoins, justement, de transformation qui s'opère ensuite. Et en tout cas, je ne crois pas que la voix soit premièrement politique. Il me semble qu'elle est... On a changé d'ordre d'une certaine façon, sur tous les plans d'ailleurs, depuis quelques années. et qu'en fait, le bon chemin ne sera pas politique, et l'ordre de ce qu'on vit n'est plus un ordre tout à fait politique, mais proprement spirituel, voire même carrément eschatologique.
Bon, ce sont de grands mots, et évidemment, ils désignent de grandes réalités. Si vous aviez envie de commenter dans l'actualité la plus immédiate, à la fois un fait qui prouve à quel point cette vie désacralisée, mais aussi un fait qui prouve qu'au contraire, il y a une reconnexion à cette idée d'une vie sacrée en tant que telle par elle-même, quels sont les deux faits que vous choisiriez?
Bah, sur le premier, mercredi soir, commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, examen en troisième et ultime lecture du projet de loi sur l'euthanasie et le suicide assisté, pudiquement rebaptisé aide à mourir. Aucun amendement de prudence n'a été retenu par le rapporteur, Philippe Vigier, rapporteur général, et les co-rapporteurs. C'est-à-dire que cette loi va concerner des millions de Français. Alors, il n'y a pas des millions de Français qui vont être euthanasiés, mais en revanche, il y a des millions de Français qui vont pouvoir se poser cette question-là, y compris des majeurs qui sont protégés par la justice, par le régime de tutelle et de curatelle, vis-à-vis desquels aucune garantie n'a été retenue, y compris des gens qui cumulent des souffrances psychiques avec des douleurs réfractaires qui ne seront pas apaisées parce que il n'y a pas de moyens mis sur les soins palliatifs. Et tout ça s'est fait en 2 jours, en toute décontraction. Et à la fin, on a même vu le rapporteur général, Philippe Vigier, applaudir d'une certaine façon la séance et se lever précipitamment comme pour se dire « Allez, on va prendre un verre ». Et il y avait quelque chose d'absolument surréaliste pour avoir suivi les quelques 20 heures de discussion dans cette désinvolture avec laquelle nous changions complètement de monde. Et à nouveau, il n'y aura pas forcément 1 million de personnes ou 2 millions de personnes qui seront euthanasiées l'année prochaine si le projet de loi a été adopté. En revanche, la vie d'1 million ou de 2 millions de personnes va concrètement changer parce que le fait de devenir éligible va complètement changer la relation dans laquelle ils évoluent avec leurs proches. Voilà. Et donc ça, c'est peut-être la quintessence et le summum de ce que peut produire cette perception désacralisée de la vie. D'ailleurs, au nom d'une autre logique religieuse, entre parenthèses, sur laquelle on pourra peut-être revenir, mais vous voyez, ceux qui disent c'est les cathos intégristes qui sont contre l'euthanasie, en fait, eux-mêmes portent une vision religieuse qui est d'un autre ordre, mais qui est une vision religieuse. Donc, première réponse, c'est ça. Et on ne saura que trop répéter aux gens que, oui, ça fait 4 ans que ça dure, mais là, c'est la dernière ligne droite. Et que si ce projet de loi est adopté en l'état, fin juin par l'Assemblée nationale, alors il y aura quelque chose d'irréversible qui s'opérera pour des millions de Français qui sont en situation de handicap lourd, qui sont porteurs de trisomie 21, qui sont porteurs d'autisme associé à une déficience intellectuelle, qui sont aujourd'hui en dehors des circuits de soins pour lesquels il y a des ruptures, des situations d'isolement, de précarité, etc. Et là, c'est vraiment le moment d'agir. S'il y a un moment, je sais que ça fait longtemps qu'on en parle et que ça fait des années même qu'on en parle sur cette antenne avec vous, Richard, mais là, s'il y a un moment pour agir, c'est celui-ci. Il n'y aura pas d'autre chance. Le processus législatif, après 3 lectures, après deux renversements de gouvernement, est arrivé à son terme. C'est le moment ou jamais d'agir. Donc ça, c'est la première réponse à votre question. Deuxième réponse à votre question, et vous y allez justement en miroir avec la première, eh ben, lors de ce voyage en Espagne, il y a un jeune trisomique qui s'est jeté dans les bras du pape. Et le pape lui a offert un cadeau, je ne sais pas ce que c'était, il doit avoir des chapelets dans sa papa mobile. Ça a été un moment vraiment de grâce où on a pu se rendre compte que la vie ne se résumait pas à ce qui la rendait fragile, à ce qui la rendait compliquée, et même à ce qui la rendait parfois insupportable. Y compris d'ailleurs pour les proches aidants qui sont épuisés par ce genre de pathologie. Et je crois que voilà, il y a eu quelque chose de très beau qui s'est passé là, et que dans le discours d'ailleurs du pape au Cortès, dans lequel il rappelle que la vie en fait est sacrée et qu'elle ne saurait être soumise à quelconque forme de que cette vérité ne saurait être soumise à quelque forme de concession que ce soit de la part du pouvoir politique. On est aussi voilà, dans ce chemin de restauration dont on parlait. Donc le clair et l'obscur. Mais cette clarté-là, que renaissante, si vous voulez, elle ne change rien à l'urgence véritablement d'une mobilisation concernant la proposition de loi sur la fin de vie. Vous trouvez dans les paroisses, dans un certain nombre de circonscriptions, des petites cartes qui vous permettent d'écrire à vos députés. Sur le site de l'Assemblée nationale, il est possible de trouver le courriel des députés. Il est possible, évidemment, de se mobiliser sur les réseaux sociaux. Et il faut le faire parce que à la fin du mois, il n'y aura plus d'autre chance qui nous sera laissée. Et tous ceux qui nous écoutent ont trop d'habitude de la vie politique pour savoir qu'une fois qu'on engage ce genre de réforme, c'est irréversible. Et on pourra toujours dire qu'on reviendra dessus si le RN arrive au pouvoir ou si les Républicains arrivent au pouvoir, etc. Tout le monde sait que ça n'arrivera pas. Donc c'est le dernier moment pour s'engager.
Merci beaucoup Rémy Tell et
merci, Richard.
À dans 15 jours.
À très bientôt.
Voilà, et tout de suite, nous allons entendre, bien sûr, Jérémy Combe et après, Tuc du Haut-Denis.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Jérémy.
Alors, bonjour Richard, bonjour à toutes et tous.
Voilà, aujourd'hui vous allez nous parler d'une question cruciale, comment se faire inviter chez des amis qui ont une piscine et comment refuser.
Eh bien effectivement, il y a deux catégories de Français pendant l'été ou pendant des espaces de canicule. Ceux qui possèdent une piscine et ceux qui possèdent leur numéro de téléphone. Dès que le thermomètre dépasse les 35 degrés, un phénomène fascinant se produit. Des amitiés que l'on croyait endormies depuis des années renaissent soudainement. On reçoit des messages du type « Tiens, je pensais justement à toi », alors qu'en réalité, on pensait surtout à l'eau à 26 degrés qui se trouve dans le jardin. Ou alors la piscine est devenue le château fort moderne. Hier, on convoitait les terres, aujourd'hui, on convoite le bassin. Pourtant, les bonnes manières nous rappellent une règle très simple. On ne s'invite jamais soi-même, Richard. L'hospitalité est une vieille tradition. Chez les Grecs anciens, accueillir un invité était presque un devoir sacré. Mais l'invité avait lui aussi des obligations. La discrétion, la gratitude et surtout la retenue. Autrement dit, suggérer n'est pas imposé.
Alors, que peut-on dire et surtout ne pas dire ?
On peut dire à un ami, avec cette chaleur, je comprends ceux qui passent leur journée dans une piscine. Mais on évite soigneusement le « à quelle heure j'arrive samedi ?» L'élégance consiste à laisser à l'autre la liberté de proposer. Et lorsque l'on est invité, quelques règles simples s'imposent, chers amis. D'abord, on ne vient jamais les mains vides. Une bouteille, des fruits, un dessert, peu importe. L'idée n'est pas de payer sa place, mais de remercier. Ensuite, on respecte les horaires. Arriver 2 heures plus tôt ou repartir après le dîner alors que rien n'était prévu est une manière élégante de transformer une invitation en prise d'otage. Enfin, on n'oublie jamais que la piscine appartient à quelqu'un. Les enfants qui éclaboussent tout le quartier, les plongeuses olympiques à proximité des verres en cristal et les enceintes Bluetooth à volume maximal ne font pas partie du savoir-vivre estival.
Mais alors, il y a quand même l'autre situation, savoir refuser. Je suis très anxieux à l'idée de savoir refuser.
Eh bien, je vais vous aider. Car posséder une piscine ne signifie pas devenir maître nageur municipal. On a le droit de vouloir passer un dimanche tranquille, de recevoir sa famille ou simplement de ne recevoir personne. Le refus élégant est celui qui est clair et bienveillant. Merci d'avoir pensé à nous, mais ce week-end ne sera pas possible. Ça, c'est simple. Sans justification interminable, sans inventer une urgence diplomatique ou une extinction des espèces protégées dans son jardin. Comme souvent, les bonnes manières reposent sur un principe simple, respecter la liberté de chacun. L'invité ne doit pas forcer l'invitation, l'hôte ne doit pas culpabiliser de refuser. Et tout le monde devrait se souvenir de cette jolie phrase de l'écrivaine Elisabeth Bibesco, « Le secret de la vie est de savoir donner sans souvenir et recevoir sans oublier. » Car au fond, une invitation n'est jamais un dû, c'est un cadeau. Et les cadeaux les plus agréables sont souvent ceux qu'on n'a pas réclamés.
Merci Jérémy.
Merci Richard.
Ligne droite, la revue de presse.
Et la revue de presse, c'est avec Tuc du Haut-Denis. Bonjour Tuc du Haut.
Bonjour Richard, bonjour à vos auditeurs. Je tiens à signaler que je suis tout à fait d'accord avec Jérémy Combe sur les cadeaux. qui sont ceux qu'on ne réclame pas, qui sont plus agréables à recevoir. Ceci étant dit, cher Richard, cette semaine, à la Une des Valeurs Actuelles, nous avons consacré un grand dossier à un homme que vos éditeurs commencent, à mon avis, à découvrir à travers les coupures de presse qui émergent ça et là, et il s'agit de Mathieu Pigas. Mathieu Pigas est un banquier d'affaires, pas milliardaire, mais qui a quand même constitué une fortune tout à fait considérable, et qui met son argent au service de ses idées. Jusque-là, c'est son bon droit, mais qui est extrêmement donneur de leçons et qui a des idées pas tout à fait conventionnelles, qui est vraiment classifiable, je pense, à l'extrême gauche. Et on a titré l'inquiétant Monsieur Pigas, parce qu'en fait, en investissant dans Radio Nova, en voulant jouer un rôle en 2027, en soutenant telle ou telle initiative, il essaye de poursuivre la déconstruction pourtant déjà bien avancée du pays. Et j'en doute parce que c'est vraiment typique de l'homme qui dit « faites ce que je dis mais pas ce que je fais », que ce soit dans son train de vie, que ce soit dans la manière dont il gère sa fiscalité. Il n'a pas vraiment des idées de gauche. Et en revanche, quand il s'agit de donner des leçons, quand il s'agit de voir l'extrême droite partout, quand il s'agit d'attaquer Vincent Bolloré ou Pierre-Édouard Sterrin, là, il y a du monde. Et ce qui est assez troublant avec Mathieu Pigas et la manière dont fonctionne notre débat public et notre système médiatique, c'est qu'il ose des sorties, des prises de position, des combats que n'oserait pas absolument Vincent Bolloré ou Pierre-Édouard Sterrin, ou en tout cas qui serait tout de suite qualifié de propagandiste, de militant extrémiste. Lui, il avance démasqué, et en même temps, c'est à ça qu'on reconnaît l'immunité de la gauche, c'est d'avancer comme ça. Et là où il a quand même une vraie influence, hein, c'est que c'est aussi le propriétaire ou l'actionnaire majoritaire, ou tout à fait considérable, en tout cas de la société de production Media One. Et Media One, on a découvert grâce à la commission d'enquête de Charles Aloncle que c'était une société de production qui fournissait énormément d'émissions de flux à France 5. Voilà pourquoi il nous semblait tout à fait intéressant et même, je dirais, nécessaire de s'intéresser à cet inquiétant Monsieur Pigas.
Alors, ce Monsieur Pigas dont vous nous parlez, dont on sait qu'il vient d'obtenir la restructuration, le marché, la restructuration de la dette vénézuélienne, donc c'est quand même génial que un capitaliste français qui passe son temps à expliquer qu'il faut lutter contre la droite extrême et la droite nationale, et qui d'ailleurs, ce faisant, n'est absolument pas attaqué, évidemment, par la gauche, mais même pas par la droite, nationale ou pas, se retrouve en fait être le copain de Donald Trump, et donc de l'épouvantail de la gauche française pour achever de détruire un régime socialiste.
C'est pour ça que je vous parlais d'agent double, effectivement. On a un papier consacré spécifiquement à la manière dont la banque d'affaires dans laquelle il est associé a obtenu le marché de la restructuration de la dette vénézuélienne, qui est un marché considérable sur lequel, évidemment, toutes les grandes banque d'affaires mondiale type Rothschild ou Lazard étaient sur les rangs pour obtenir ce marché. Et en fait, on soupçonne très fortement Mathieu Pigas d'être proche d'un conseiller de Donald Trump qui s'occupe de l'Amérique du Sud et d'avoir effectivement donc joué de ce réseau-là pour obtenir ce marché. Et une fois de plus, et vous avez raison de soulever le fait que ce qui prêche pour la France, tout d'un coup, quand il s'agit de récupérer les milliards de dollars de cet horrible Donald Trump qui fait si peur à la gauche française, évidemment, je mets de l'ironie dans cette outrance, et bien là, tout d'un coup, Mathieu Pigas a moins de pudeur de gazelle.
Il a nettement moins de pudeur de gazelle. Il y a un autre grand article qui est tout à fait intéressant dans cette livraison de Valeurs Actuelles, dont je remonte la couverture. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube et sur X, donc l'inquiétant Monsieur Pigas, c'est un grand entretien avec Sarah Knafo. Il faut interpeller davantage, sanctionner enfin, expulser enfin.
Oui, on a voulu interroger Sarah Knafo suite aux émeutes qui ont émaillé la victoire du PSG en Ligue des Champions, parce que la réalité des choses, c'est que c'est pas juste un fait divers, hein, c'est évidemment le miroir d'une société complètement malade et à l'envers. Et ce qu'on a voulu faire avec Knafo, c'est pas de nous raconter les émeutes, parce que ça, tout le monde les a suivis il y a quelques jours déjà, mais c'est essayer de nous expliquer comment, si elle ou son parti arrivait au pouvoir, on peut lutter avec la chaîne pénale, avec une réorganisation de l'État régalien contre ce genre de dérèglement, je dirais, de dysfonctionnement.
Et donc très bon entretien où évidemment Sarah Knafo, brillante comme d'habitude, tord le cou à toutes les fausses excuses de Bruno Retailleau, de Laurent Nunez, d'Emmanuel Macron et de tous ceux qui à un moment donné ont été en poste, en responsabilité, comme on dit en Macronie. Mais merci beaucoup Tuc Dualdeni.
Merci beaucoup Richard et bon week-end à vos auditeurs.
Merci à vous aussi.
Zone libre.
Il nous reste quelques minutes à passer ensemble, chers auditeurs, et donc c'est le moment d'accueillir avec joie Louis Rigaudière, qui est notre spécialiste de
Richard.
La zone libre.
Ah bah avec plaisir, hein, c'est toujours avec plaisir. Bonjour à tous les auditeurs, ravi de vous revoir Richard. Moi j'aimerais revenir sur un épisode qui a eu lieu hier d'ailleurs, où un invité que nous connaissons bien et que nos auditeurs connaissent bien, il s'agit de Didier Raoult, qui était invité chez nos amis de TV Liberté. Moi, alors, parce qu'il n'y avait pas tellement d'actualité très forte ce matin, donc vraiment, ce passage m'a fait rire et je voulais vous en faire part. Parce que, évidemment, Raoult était très remonté avec l'ensemble des protagonistes du plateau, donc Myriam Palomba, Christian Perron et Éric Morillo. Et donc, je vous laisse savourer ce moment. C'est vrai que Raoult, on l'a rarement vu aussi remonté. Je vous laisse écouter.
On a à peu près, on peut dire ça quand on ne sait pas ce qui s'est passé avec ce virus. Si on sait ce qui s'est passé, donc là aussi, la presse est intéressante, les opinions des uns, le congrès...
C'est pas les opinions, hein, c'est ce qui a été dit...
Non mais ce qui a été dit, c'est des opinions. Moi, je vais vous parler de faits, si vous me laissez terminer. Les bases synonymes, vous savez ce que c'est qu'une base synonyme?
Non.
Ben non, parce que vous ne savez pas ce que c'est qu'une séquence.
Dictionnaire des synonymes. Ouais.
Non mais je ne suis pas scientifique, moi. Non mais d'accord, mais...
Laissez-moi terminer, je vais essayer de vous expliquer, comme ça vous aurez appris quelque chose. Alors, je veux dire une chose que je regrette de ne pas avoir mis en exergue de ce livre, mais que je mettrai... en exergue du prochain.
Oui, comme votre ça, rôle d'élever les foules.
Chut, vous m'avez posé une question. Ouais. Vous êtes cette manif, vous êtes chiant, tout le temps coupé là. On commence un mot et vous coupez la parole des gens, mais c'est inouï ça. Vous savez, moi, dans toute ma vie de professeur, je n'ai jamais laissé un étudiant m'interrompre quand j'étais au milieu d'une phrase.
Mais là, c'est pas un cours là. C'est
non, mais un échange, c'est bien élevé. Ma mère non plus. Vous voyez, ma mère m'a bien élevé. Elle m'a appris qu'on faisait pas ça.
Mais ça a l'air tellement d'être insoutenable pour vous. J'espère que vous n'avez pas passé un mot. Non, mais là, mais je ne suis pas ironiquement du tout.
Là,
le public est venu.
Là, je savais pas le format. Je suis le format. Ah, c'est pas sûr, je serais probablement pas venu. Non.
D'accord. Bah, j'en suis désolé parce que, en tout cas, la démarche n'était pas du tout.
Non, mais je trouve que c'est.
J'ai reçu en one-to-one déjà.
Oui, mais je trouve que c'est des questions pas intéressantes. Ouais.
Waouh. Ah oui, non, mais c'est.
Eh ben, les bases synonymes, on ne saura pas ce que c'est. Hein.
Ah non, mais quand il était invité chez nous, il était beaucoup plus agréable, beaucoup plus heureux. Donc, c'est très curieux de le voir comme ça. Je me demande ce qui a bien pu causer ces énervements multiples. Il y avait, j'aurais pu faire une compilation de plus de 5 minutes où vraiment il y avait les meilleurs moments. Et notamment cette confrontation entre Didier Raoult et Christian Perron. C'est quand même assez surprenant de voir, donc maintenant 6 ans après le Covid, de voir que maintenant, voilà, les esprits s'échauffent encore aujourd'hui. Voilà.
Et vous, camarade Alexandre ?
Bon, non, mais moi, après, je vous ai déjà donné plein d'actualités dans ma chronique de tout à l'heure.
Ah, quand
même.
Ça, je confirme,
déjà,
il y en a beaucoup.
Je
oui.
pense qu'il faut. On va pas revenir dessus, hein, mais voilà. Non, bah, moi, je vais vous parler de sujets essentiels, comme à chaque fois. Aller un petit peu au cœur de l'actualité. Je vais vous parler gorille aujourd'hui.
Ah oui.
Alors, gorille, il y en a deux dont je voudrais vous parler. Je voudrais d'abord vous parler de Kiyomasa. Kiyomasa, qui est un gorille japonais, comme son nom l'indique, de la ville de Nagoya. Et donc, plusieurs vidéos de lui ont circulé. Alors, théoriquement, ça aurait été après une dispute avec sa femme gorille. Mais nous avons eu, grâce à TF1, il faut parfois voilà, remercier...
Alors l'Élysée a d'ailleurs tout de suite démenti, ce n'est pas une dispute, c'est un geste amoureux.
Non mais alors, c'est très bien ça. Non mais effectivement, il y a un côté où tout le monde s'est pris d'affection pour ce gorille, mais en réalité, il ne s'est rien passé de particulier, le gorille attendait simplement que la puce cesse pour pouvoir sortir, rien de plus. Alors bon, vous allez me dire, oui mais Alexandre, c'est pas vraiment une information, étant donné qu'il se passe rien, c'est vrai.
Oui Alexandre, ce n'est pas vraiment une information.
C'est vrai, vous avez raison.
Et je vais vous donner une autre information gorille. Alors, parce que, bon, j'essaie de. Alors, ça s'est passé il y a quelques jours, mais je pense que c'est encore d'actualité. Si nous, on n'a pas fait de grand entretien encore à cette antenne. J'aurais parlé de Harambe. Harambe, célèbre gorille américain, qui a été honoré par le président des États-Unis, Donald Trump. Alors, je cite son tweet sur X. Aujourd'hui, nous nous souvenons d'une légende. En ce jour, Harambe aurait fêté un autre anniversaire. Il est devenu le symbole de la loyauté, de la force, du chaos, de l'unité. Tout le monde se souvient de l'endroit où il se trouvait quand il a appris la nouvelle. Repose en paix, vrai patriote. Et alors ça, c'était en référence effectivement à la mort du gorille Harambe il y a maintenant 10 ans, presque jour pour jour. Donc voilà, le vrai patriote, ce gorille américain qui est Harambe. Donc rendons-lui hommage peut-être. Je propose une minute de silence à l'antenne.
Ah bah c'est parti, il reste 20 secondes.
Eh bien,
c'est pas très radiophonique, les minutes de silence.
On fera aucune minute de silence à l'antenne pour Harambe, je suis désolé. Voilà, si le Front Libération des Gorilles a envie de m'attaquer,
le
il peut le faire.
Le FLG
oui, le célèbre FLG. Ça n'a aucune raison de se taire. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour nous avoir fait découvrir le professeur Raoul sous un jour un peu différent, où on sent que son amour de l'humanité s'exprime à plein. Merci quand même pour le gorille et à vous tous, chers auditeurs. Au revoir sur YouTube, au revoir sur X, mais quittons-nous bons amis, donnez-nous un peu de sous.
Et les bons comptes font les bons amis, effectivement, Richard. Faites-nous des dons en ligne en vous rendant sur soutenir.rc.fr et puis adressez-nous vos chèques par la poste à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Nous avons plus que jamais besoin de vous et nous comptons sur vous.
Eh bien, merci beaucoup et nous allons en profiter pour réécouter le premier entretien de ce matin avec Frédéric Magellan qui revenait sur la Coupe du Monde de football et ses enjeux politiques et économiques.
Ligne droite. Debout les Français.
Et j'accueille avec bonheur Frédéric Magellan, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes journaliste et entre autres spécialisé dans le sport. Vous avez publié justement un ouvrage très récemment sur cette géopolitique du sport. Comment considérer cette Coupe du Monde du foot organisée par les États-Unis? Est-ce qu'elle est pire que celle organisée la dernière fois, avec tous les scandales autour de l'attribution d'un marché mondial dans un des pays les plus chauds au monde, avec ce que ça signifie en matière de chantiers pharaoniques, de dépenses environnementales inconsidérées et de morts d'ouvriers? Ou est-ce qu'au contraire, elle est extrêmement vertueuse avec la surabondance des places à 3 000 $ et la surabondance aussi des prétendues pauses fraîcheurs où on se retrouve assommé de coupures publicitaires pendant les matchs? Ma oui, question est un peu orientée.
Bonjour. Effectivement, alors c'est vrai qu'on a la Coupe du Monde a démarré hier au Mexique. La Coupe du Monde donc dans 3 pays d'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, Mexique. Il y a plein déjà de petites polémiques qui démarrent sur la présence des délégations iraniennes, sur le maillot haïtien qui a été retoqué à la frontière, entre guillemets. Et beaucoup de journalistes sportifs, j'écoute les chroniqueurs un petit peu sur l'équipe, notamment la chaîne L'Équipe, nous expliquent que c'est déjà la pire Coupe du Monde de tous les temps. On nous expliquait déjà un peu la même chose il y a 4 ans. Le Qatar l'avait effectivement accueilli. À l'époque, il avait fallu, ça a coûté à peu près la vie de 1000 personnes la construction des stades et des infrastructures. 4 ans plus tôt, c'était la Russie de Poutine qui l'accueillait. En fait, c'est une vieille histoire. Il y a toujours eu des coupes du monde un peu litigieuses. L'Argentine de Videla l'avait accueilli en 78. Puis on peut même remonter à Mussolini en 34. Donc, est-ce que la coupe du monde de Trump est la pire de tous les temps? C'est pas sûr et certain. Mais il y a plein de petits sujets. Alors, ce qui est assez drôle, je sais pas si c'est drôle, mais la Coupe du Monde avait été attribuée en 2018. À l'époque, on était à la première partisan de Trump. On pouvait imaginer que Trump ferait un deuxième mandat, mais on imaginait mal qu'il allait revenir 4 ans après sa défaite, etc. Donc on n'imaginait pas qu'en 2018, Trump serait de nouveau ou encore
président. 2026.
Enfin, c'est peu probable. Et pourtant, c'est arrivé, donc c'est peut-être un petit peu une part de la, de la situation actuelle. En plus, ses relations avec les deux autres pays originateurs sont pas terribles. Il veut plus ou moins annexer celui du Nord, paraît-il. Celui du Sud, bon, il y a des problèmes de frontières, le golfe du Mexique, etc. Donc, on peut considérer que c'est la pire Coupe du Monde si on en a envie. En réalité, c'est une vieille histoire. Il y a toujours eu des situations bizarres. Alors, une chose quand même un peu à part, c'est que l'histoire des Coupes du Monde par rapport aux JO, si on compare, elle a été épargnée en gros par les histoires de boycott. La guerre froide a eu peu de prise, il y a eu très peu de choses très notables. Pour une raison simple, c'est que les États-Unis n'avaient jusqu'à récemment aucun intérêt pour le football. Ils ont leur sport à eux. Et d'ailleurs, ils ont un peu horreur de ça, la baballe. Ils trouvent que les phases de jeu sont trop longues. Eux, ils aiment bien quand c'est un peu interrompu. Ils aiment bien en plus, ça permet d'envoyer de la pub, donc c'est formidable. Et donc, pendant toute cette période, jusqu'aux années 90, même très récemment, les États-Unis ne s'intéressaient pas à la Coupe du Monde, donc c'est une affaire...
De football.
Donc, c'était une affaire entre Argentins, Brésiliens, Français, Italiens, etc. Ça les intéressait de très, très, très loin. Et donc, les sélections s'entendaient assez bien pour faire des matchs. Les équipes de l'Est faisaient les Coupes du Monde de football comme les autres. Il n'y avait pas d'incident majeur. Et là, depuis que les États-Unis s'y intéressent un peu plus, on prétend aujourd'hui que le football a dépassé le baseball dans les sports là-bas. Il reste encore un peu de marge pour aller chatouiller le basket et le football américain, le football n'a jamais été leur. Alors, il y a quand même une chose, c'est depuis 2015, on se souvient que c'était le FBI qui avait fait un peu le ménage dans la FIFA pour des questions de contrat, etc. Le président de la FIFA à l'époque avait été renversé, c'est Blatter. Ça fait à peu près 10 ans qu'ils s'y intéressent, notamment pour des raisons politiques. Ils ont compris quand même l'intérêt mondial. Si eux ne s'y intéressent pas, les autres s'y intéressent. Donc c'est une bonne raison de s'y intéresser quand même. C'est pour ça qu'il l'accueille cette fois-ci, cette Coupe du Monde. C'est pour ça que Trump a mis un peu son nez là-dedans. Mais voilà.
Alors, cette Coupe du Monde a des enjeux politiques et évidents. En France, on a l'impression que l'ensemble des commentateurs politiques expliquent que Trump tire la couverture à lui, alors que dans les faits, on n'a pas l'impression que Donald Trump est à ce point-là présent à chaque match. Non, il y en a eu très peu, mais ni même dans ses déclarations, on a l'impression qu'il est plutôt occupé à résoudre le problème de la guerre irano-israélo-américaine.
C'est vrai que ça démarre tout juste. Le premier match hier a eu lieu au Mexique, donc on ne l'a pas vu à la cérémonie d'ouverture. Ce qu'on pouvait craindre, c'est vrai que l'année dernière, les États-Unis avaient déjà accueilli une autre Coupe du Monde, c'était celle des clubs. Les clubs dont le PSG notamment avait participé. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Trump avait été un peu omniprésent, il était sur tous les écrans géants. Il s'était un peu mêlé à la cérémonie de remise du trophée que Chelsea avait remporté, etc. On pouvait craindre un peu la même chose, sauf que cette Coupe du Monde de l'an passé n'avait lieu qu'aux États-Unis sur un nombre restreint de stades. Là, Trump, on imagine mal prendre l'avion pendant un mois pour aller au Canada, au Mexique, puis de Seattle à Miami pour voir les matchs. Il va peut-être en voir 3 ou 4, mais pas beaucoup plus. Surtout que depuis un an, il a mis les doigts dans la confiture géopolitique et il a peut-être d'autres chats fouettés que le football.
Alors,
pas grand monde là-bas d'ailleurs.
Oui, il y a ces petites polémiques comme par exemple cet arbitre somalien qui a été retoqué aux portes des États-Unis.
Oui, c'est un arbitre somalien qui s'appelle Omar Altan, qui a été retoqué à la frontière, apparemment soupçonné de sympathie terroriste, on ne sait pas très bien. Quiconque a mis les pieds aux États-Unis un jour sait que quand on arrive à la frontière, quand on arrive à l'aéroport, l'hypothèse d'être renvoyé aussitôt n'est jamais complètement nulle. On a parfois des interrogatoires. Pourquoi pas un arbitre somalien, ça peut arriver. Est-ce que les soupçons sont fondés? J'en sais rien. Mais
vous me permettrez d'émettre des doutes polis sur la pertinence du renvoi d'un arbitre somalien pour la Coupe du Monde et surtout la capacité de cet arbitre à déstabiliser les États-Unis.
C'est pas avec des coups de sifflet envoyés en plein match qu'il a effectivement généré une vague de conversion aux frères musulmans dont on parlait à l'instant ou autre. On peut imaginer, mais de toute façon, à l'intérieur des États-Unis, cette affaire d'arbitre somalien risque de pas intéresser tant que ça, puisque, je vous le dis encore, le peuple américain de base va peut-être jeter un œil sur 2-3 matchs de l'équipe nationale, mais il s'y intéresse pas tant que ça. Peut-être qu'il y a une volonté politique de rappeler les grands principes du Trumpisme, c'est-à-dire le côté tatillon à la frontière. Il y a peut-être un petit message politique envoyé, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. Ça crée une émotion, en revanche, chez les commentateurs sportifs à l'heure actuelle. Oui.
Le vrai problème de cette Coupe du Monde des États-Unis, c'est surtout son coût. C'est-à-dire, pas tellement d'ailleurs le coût de la mise en ordre des stades, etc. C'est que les places sont extrêmement chères. Il y a même des places à 3 000 $.
Oui, bah, ça, c'est il y a une inflation générale sur les places de foot. J'avais vu un graphique où on voit à l'époque de la Coupe du Monde 98, donc il y a 25 ans, on pouvait accéder à des places à 70 €. Aujourd'hui, tout a monté, mais c'est finalement il y a une question de demande mondiale. D'ailleurs, il y a 30 ans ou 25 ans, les États-Unis, le public américain ne cherchait pas spécialement à aller voir des matchs de foot. Depuis, ça a un peu monté, donc automatiquement, ils participent à la montée. Idem pour les pays du Golfe qui s'y sont mis, donc il n'y a pas de raison que ça ne monte pas. Et la question des coûts, de toute façon, oui, alors, c'est un sujet global. On a beaucoup critiqué la Coupe du Monde du Qatar il y a 4 ans. Il y avait un mérite, c'est que, par exemple, il n'y avait pas besoin de prendre l'avion pour aller d'un point à l'autre du pays suivre les matchs. Là, toutes les équipes vont devoir prendre l'avion, pratiquement pas de l'Alaska ou à Veracruz, mais quasiment. Et puis, on voit aussi que. Alors, il y a une autre chose, on voit aussi sur les Jeux Olympiques, il y a 20 ans, à l'époque de Chirac, de la Noé, tous les pays, toutes les grandes capitales voulaient accueillir ce type d'événement. De la Noé aurait quasiment tué à l'époque, je sais pas si vous en souvenez, mais il aurait quasiment tué Pierre Aymer pour avoir les JO à Paris. Depuis, ça a un peu changé, il n'y a plus beaucoup de candidats. On se souvient qu'Hidalgo avait récupéré les Jeux de Paris, bah, faute de candidats d'adversaires. Elle est allée d'ailleurs les récupérer un peu. Pas la mort dans l'âme, mais un peu à reculons. Et prochaine Coupe du Monde, pas tant que ça de pays se prononcent pour les avoir, si ce n'est l'Arabie Saoudite qui risque de l'accueillir en 2034. Donc c'est possible que dans les années qui viennent, il n'y ait plus que les pays du Golfe qui accueillent les Coupes du Monde.
Alors, effectivement, mais parce que c'est devenu extrêmement cher, la Fédération internationale, donc la FIFA, qui est en charge de ce genre de choses, est réputée être gourmande, vénale, corrompue d'ailleurs, et on sent le prix des jeux ne cesse d'augmenter. Je crois qu'il y a 8,9 milliards de dollars qui sont attendus de recettes pour la FIFA, dont 4 milliards de droits télé, 3 milliards de vente de tickets, 1,9 milliard de sponsoring. Donc, c'est devenu, en fait, une machine à fric plus qu'une compétition sportive, en tout cas par les organisateurs.
Oui, alors je crois d'ailleurs qu'au départ, la FIFA a un statut d'organisation à but non lucratif. Mais on peut se demander si ça n'a pas été un peu dévié. C'est pas non plus complètement nouveau. Hein, ça fait 30-40 ans que c'est devenu une machine à fric. Les droits TV aussi, ça joue beaucoup. Enfin, c'est l'un des moteurs du sport mondial et notamment du football. Voilà, il y avait une chose que j'allais dire, mais ça vient de partir. Tant pis. Vous me disiez donc.
Je parlais de l'explosion en fait des coûts en fait, mais qui sont surtout l'explosion des recettes attendues par la FIFA. Donc entre les droits télé, prix des tickets et surtout donc tout ce qui est la vente de droits dérivés.
D'ailleurs vous souvenez d'Action Discrète qui avait fait un sketch sur les Sardouz, la Coupe du Monde 2014 avec le Brésil, une chanson assez drôle. Ça mériterait d'être revu. Oui, ça fait quand même un paquet d'années, même déjà à la fin des années 80, c'était déjà une machine à cash. Et ça risque pas de s'arrêter d'ailleurs. Bon, est-ce que le public va complètement suivre? Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est un sport qui est en train de s'américaniser gentiment, avec ses pauses à la mi-temps, enfin ses pauses en carton même, hein, sur le modèle un peu du basket, etc. Il y a aussi les remplacements maintenant, il y a des joueurs qui rentrent un peu sans cesse, on peut faire rentrer un nombre de plus en plus important de joueurs en cours de match. Donc ça s'américanise gentiment. Est-ce que le public va complètement suivre? Est-ce qu'il n'y aura pas un jour un détachement d'une partie du public? C'était un peu ce que c'était en tout cas Philippe Séguin à une époque. Il avait dit, qui adorait le foot, hein, mais qui avait dit un jour tout ça s'effondrera, sur un ton un peu à la Philippe Séguin. Mais voilà, donc imagine à cash, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Par contre, peut-être qu'une partie du public se détachera, au moins en Europe ou en Amérique du Sud, les points d'origine du football.
C'est vrai que ce sport populaire est effectivement en train de devenir, là comme ailleurs, un sport de riche ou un sport de canapé. C'est-à-dire on n'ira plus vibrer dans les stades, on se contentera d'acheter l'abonnement le moins cher possible pour voir le plus de matchs possible.
Ouais, voilà. Et puis alors peut-être que ça peut donner une deuxième chance à des niveaux, à des divisions inférieures. Peut-être qu'en Angleterre, les stades, la première ligue est principalement occupée désormais par des touristes asiatiques sur certaines équipes. Mais finalement, le public anglais, on va dire un peu old school, il va voir des équipes de 2e, 3e, 4e division. Les matchs de 4e division d'Angleterre, les stades sont assez remplis. Ça peut évoluer comme ça. Bon, voilà.
Voilà. Et donc, avec un peu de chance, voilà, une fois de plus, le peuple se détournera de l'argent pour revenir à des divertissements où il est entre gens populaires, avec des divertissements populaires, loin de l'argent et loin de la FIFA. Merci beaucoup, Frédéric Magellan.
Merci aussi.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Richard de Sèze.
Chers amis, merci beaucoup d'être restés avec nous ce matin et tous les autres matins qui ont précédé et tous ceux qui leur succéderont. Et pour que cette réussite commune puisse perdurer, comment allons-nous faire, Arnaud ?
Eh bien, pour prendre votre part au combat des idées de Radio Courtoisie, je vous invite à nous faire des dons en ligne sur soutenir.rc.fr et d'adresser vos chèques à Radio Courtoisie 61 Boulevard Murat 75 016 Paris.
Eh bien, merci beaucoup. Et avec tout ce bel argent, on va faire d'excellentes émissions, comme celles qui vont être diffusées à l'antenne juste après la matinale.
Ah bah, juste après la matinale, ce sera à 10h et en direct. Le Florilège des Arts, j'avais perdu mon papier. Florilège des Arts de Michel Soyer, il sera question du monde du luxe. Brille-t-il encore ? La question auquel on est en train de répondre. À midi, en direct également, le libre journal du théâtre, dirigé par Jean-Luc Génère. Deux invités, tout d'abord Gianni Corvi et son théâtre en danger, l'Auguste Théâtre. Et puis Frédéric Sabrou, auteur de Vincent, son mari et sa femme, au théâtre de l'Essaillon. À 17h, Histoires à la loupe de Patrick Simon avec le 7e épisode de Marie-Josette Liégeois. Restons courtois à 17h30 en direct avec Marc Baudrier ce soir. Tout d'abord, Marine Le Pen face à son destin avec Hubert Coudurier, directeur de l'information du Télégramme et auteur du livre Le Mystère Marine Le Pen. Et puis le ras-de-bol des Anglais et des Irlandais avec Jean Bexon. Journaliste à Boulevard Voltaire.
Bexon,
oui. On parlait des Anglais, c'est pour ça. Bexon, donc, journaliste à Boulevard Voltaire, après ses reportages au Royaume-Uni ainsi qu'en Irlande. À 19h30, le libre journal de Lucien Rabouille. Une œuvre pour plusieurs vies avec Arnaud Tessier pour la réédition de Charles de Gaulle, L'angoisse et la grandeur. Et puis nous terminerons la journée avec Patrick Banken et Jean Grégorien avec la solennité de la fête du Sacré-Cœur de Jésus.
Eh bien, merci beaucoup à Arnaud et moi, de mon côté, je ne vous dis pas à demain, mais à lundi, car demain, c'est samedi.